pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 174. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et d'à peu près tout, mais pas de politique évidemment dans ce podcast.
Jamais, jamais.
Avec mon camarade Benji. Hello Benji, comment tu vas ?
Eh ben salut Daniel. Alors j'ai eu des petits soucis de santé, mais on va en parler.
Est-ce que tu veux commencer par ça ? La santé, c'est le plus important.
Peut commencer par ça, mais... on va parler tourisme aussi, parce qu'il y a une introduction en fait à ces petits soucis de santé. Mais toi, Daniel, comment vas-tu avant que j'attaque quand même ?
Écoute, ça va. Maintenant, je vis les mythiques ponts comme si j'y étais, puisque l'école me dit « Ah bah, il n'y aura pas école ni jeudi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi. » Donc du coup, t'es obligé de faire pont avec le petit.
Ah bah oui, c'est vrai que la vie de freelance ne t'a pas habitué à ça en fait.
Mais ouais, et déjà, les 8 semaines de vacances dans l'année, j'étais pas prêt. Les 8 semaines de vacances en été, je suis encore moins prêt. Et c'est ça, toutes les années. Donc du coup, j'ai décidé, et je te l'annonce, j'ai décidé de devenir prof, en fait, pour suivre tout le monde. Non, c'est une folie, parce que...
Je suis pas sûr que ce soit un très bon plan. Non, demande à un certain Stéphane Boulet, il t'en parlera.
Non, non, alors lui, il est devenu directeur, mais je pense que...
C'est un magnifique métier, hein. Total respect à tous les gens qui travaillent dans l'enseignement, mais...
On a pas mal d'enseignants qui nous écrivent, tu sais. Le plus émouvant, c'est les enseignants qui écrivent en disant « Je suis enseignant comme Stéphane, choisissez ma liste dans Super Ciné Battle.
» Courage à eux.
J'ai envie de leur dire « Vous êtes des fous, vous êtes des fous. » Parce que... Ah, mais ça, je peux te le raconter.
Ouais.
Mais j'ai été aux portes ouvertes de mon fils. Donc, tu sais, genre les portes ouvertes
de l'école,
de l'école de mon fils, évidemment.
Oui.
Et c'est super de voir son fils qui est dans une classe et qui essaie... J'adore regarder mon fils quand il me voit pas, en fait, pour voir comment il interagit avec les gens.
Ouais.
Tu sais, quand il était à la crèche.
Pour voir s'il se comporte différemment.
Pour voir s'il marche sur la petite blanche ou sur la petite... j'ai dit le premier prénom qui me venait à la tête.
Oui, tu parles du prénom, oui, de Camille, de voilà. Justine. De...
C'est pas genre... C'est quoi les prénoms? Ils ont changé. Hein. Ils ont changé.
Ah, j'en sais rien, je suis pas du tout à la mode sur les prénoms maintenant.
Ah, les prénoms, ils ont changé.
J'imagine que c'est plus Théo et Mathéo, c'est passé de mode tout ça.
Mais est-ce qu'il y avait un Mathéo? Je peux pas balancer les prénoms de qu'il a en classe.
Non, mais non,
parce que... Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est... Je crois qu'il y a un Mathéo dans
une,
sa classe.
Est-ce qu'il y a une Calicie dans sa classe?
Calicie, non, il n'y a pas de...
Alors ça va.
Ça, je peux te le dire, il n'y a pas de prénom lié à un truc pop culturel récent.
Ah bah, il n'y a pas de Kelly et de Brenda, ça c'est sûr.
Il n'y a pas de Kelly et Brenda, mais il n'y a pas non plus de... Genre Logan Roy. Il n'y a pas Logan Roy, tu vois, par exemple. Ah merde, t'as pas regardé Succession?
Non, je vois pas. Et Succession, je pense pas que ça ait été un succès populaire autant que Game of Thrones, tu vois. Succession, ça a été populaire sur Twitter.
Ouais.
Mais à part ça, je suis pas persuadé, mais je peux me tromper.
Non, je crois que c'est le genre de série qui va rester dans l'inconscient collectif, Succession. Tu sais, c'est comme... Un peu comme Soprano, au bout d'un moment, il y aura plein de gens qui vont le revoir et revoir et revoir pour l'analyser.
Écoute, je te dirais ça quand j'aurai regardé Succession.
Ouais, mais bon, vu que tu regardes tous dans l'ordre les séries, tu regardes les séries de 1997,
voilà.
Les séries de 1998.
Ah bah oui.
Du coup, t'es un peu perdu.
Faut pouvoir une progression, faut être cohérent.
Mais parle-moi de ta santé alors, plutôt que...
Bah alors, donc tout ça commence par une histoire de tourisme, puisque c'était il y a 3 semaines maintenant, je suis allé... Pour la première fois, et c'était aussi la première fois de mon épouse, et c'était donc pour son anniversaire, on a organisé un petit voyage au Grand Canyon, parce que je n'y étais jamais allé, figure-toi, alors que techniquement, j'habite quand même pas méga loin.
Pas méga loin, mais pas méga près non plus, je l'ai fait en voiture.
Alors nous aussi, on a loué un van en fait, pour y aller en voiture en groupe avec des amis. Donc un van dans lequel on pouvait faire rentrer 12 personnes et c'est ma femme qui conduisait parce que les Américains conduire pendant 8 heures dans une direction et pendant 8 heures dans l'autre pour un week-end de 3 jours, ça leur fait pas peur parce que tu sais, eux ils connaissent pas les trains, c'est un truc qui est un peu de la science-fiction pour eux, enfin les trains à grande vitesse en tout cas. Donc voilà, on est parti le vendredi matin, on a roulé pendant 8 heures comme des cons. On est arrivé à Williams, qui est là où est la ligne de chemin de fer qui t'emmène au Grand Canyon. Sauf qu'ensuite, on a vu les prix et on s'est dit, bon, bah, on va faire l'heure qui nous reste en bagnole pour aller au Grand Canyon.
Pourquoi? Le train était trop cher?
Le train est super cher. C'est $90 aller-retour pour 1h30 de train. Alors qu'en voiture, tu le fais en 1 heure, quoi.
Mais,
donc,
mec,
ça...
C'est Paris-Rouen, hein.
Ouais,
c'est Paris-Rouen pendant les périodes de vacances, hein.
Oui, bah là, on n'était pas en période de vacances et 90 dollars pour un train en mauvais état sans la clim, voilà quoi. Donc, on aurait pu le faire pour le côté découverte, on se pose, mais au final, c'était, on avait décidé d'essayer de pas trop dépenser d'argent non plus. Et donc, du coup, bah voilà, je suis allé au Grand Canyon pour la première fois de ma vie sur la, on est allé sur ce qu'on appelle le bord sud. Et je t'avoue que moi, avant d'y aller, en fait, j'étais un peu dubitatif. Je me disais, bon, bah, c'est un gros trou dans le sol. Ok, super, quoi. Et ça a marché. Ça a marché sur moi, je t'avoue. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu le truc, j'étais un peu le souffle coupé. J'étais un peu comme un con à me dire, ah ouais, quand même. Quand même, l'aspect gigantesque du truc, je sais pas, il y a une espèce de, il y a une intensité quelque part. Tu regardes ça et tu te fais, ouais, on est peu de choses, hein, mine de rien. Et quand tu penses que c'est juste une rivière qui a creusé ce truc-là, c'est quand même balèze, quoi.
Il y a un petit côté vertige et c'est vrai qu'on l'a eu. En plus, ouais. Notre contact avec le Grand Canyon, notre premier contact, en tout cas avec ma compagne et moi, c'était en hélico.
Ouais.
Puisqu'on s'est dit qu'on allait, je me suis dit, on est là, au bout du monde. Jamais, il y a des chances qu'on revienne jamais là. Enfin, je veux dire, à part si on tombe amoureux du Grand Canyon ou des villes à côté. Donc, on s'est dit, on fait l'hélico, allez, chiche. À l'époque, en plus, c'était un peu moins cher. Donc du coup, toute proportion gardée par rapport à ton train, c'est pas beaucoup plus cher, en fait.
Ouais, non, mais nous, on y a pensé, mais on s'est aussi dit que, allez, on essaye d'être carbone conscient, parce que de nos jours, il y a ça aussi.
Ah, je reconnais que faire décoller une tonne de métal,
voilà.
Techniquement, c'est pas écolo. Hein.
Après, voilà, non, mais je suis pas exempt de tout reproche non plus, tu vois, je rentre en France régulièrement, je prends l'avion, donc voilà, je suis pas en train de jouer le père la morale.
Personne te blâme, tu rentres en France parce que tu veux voir ta famille.
Voilà, mais d'un autre côté, tu vois, je me suis dit, peut-être que ça, je suis pas obligé de le faire, voilà. Donc, sur le coup, mais ça faisait envie, hein, je t'avoue.
Tu sais quoi, tu pourrais aller en cruiser à travers l'Atlantique, j'en ai rien à foutre, tant que c'est pour enregistrer le live de Super Ciné, de After Eight.
De After Eight.
Donc, voilà. Fameux, donc, ce fameux live qu'on se promet en fin d'année.
Donc, voilà, donc on s'est fait une sortie au Grand Canyon, on a pas mal marché et je portais évidemment des chaussures de rando, même si on n'a pas fait des longues randos, tu vois. On n'est pas descendu tout en bas parce qu'on n'avait qu'une journée et que les rangers déconseillent extrêmement fortement, même à des randonneurs aguerris, de descendre tout en bas et de remonter la même journée, pour de multiples raisons. Déjà, la différence d'altitude, la différence de température.
Il y a un hôtel en bas, hein. Il faut le savoir. C'est qu'il y a un spot pour se poser en bas.
Alors, ouais, après, le Grand Canyon, ça fait plus de 100 km de long, donc je sais pas où en bas... Tu te situes.
Il faut prévoir le truc, hein. Il faut les prévenir.
Voilà, nous
c'est
on
pas
était
genre
sur le...
gîte.
Nous on était sur le bord sud en Arizona. Toi, je sais pas si tu l'as peut-être fait plutôt du côté nord, j'en sais rien.
Ah, je suis venu par l'Arizona, moi. Je suis venu par l'Arizona, mec.
T'es venu par l'Arizona aussi?
Bah ouais.
Nous on s'imaginait les gens à l'époque de la conquête de l'Ouest. Et t'imagines, t'arrives au bord du Grand Canyon, tu vois l'énorme précipice et tu vois l'autre côté, tu vois, qui a pas l'air si loin comme ça. Et tu te dis, bon, dans quel sens est-ce qu'on le contourne? Et imagine, tu fais ça à pile ou face, et puis tu tires le mauvais côté, celui qui te force à faire 100 km pour contourner le bidule. Il devait être bien vénère quand même à l'époque, hein, les gars.
Mais c'est le syndrome de la muraille de Chine. C'est à un moment, t'es devant la muraille de Chine, tu vas à gauche ou à droite.
Voilà.
Et coup de chance, à droite, il y avait que 30 bornes à faire, et à gauche.
À gauche, t'as tapé tout le reste.
T'avais des milliers de kilomètres.
Enfin, bref, on était contents, on s'en est bien mis plein les yeux. Et le lendemain matin, au réveil, j'avais une douleur au pied droit. Tu vois, je me disais, tiens, la vache, ça va pas super. Après, j'ai...
T'as fait une randonnée de 10 mètres.
J'ai un petit peu plus quand même, mais voilà. Mon premier raisonnement, c'est, bon, j'ai mis des chaussures de rando que je mets jamais. Elles étaient peut-être un peu serrées. Je porte des semelles orthopédiques parce que j'ai des pieds sensibles. Alors peut-être que ma semelle était pas bien mise dans la grolle. Bon. Je me formalise pas plus que ça, tu vois, je m'inquiète pas trop, je me dis bon bah ça va passer quoi, c'est une douleur temporaire, ça va passer. Sur le trajet pour rentrer à Los Angeles, déjà on s'est arrêté sur la route 66 dans la ville de Seligman, qui a servi d'inspiration à Radiator Springs dans Cars.
Ah, moi tu m'as dit Seligman, j'ai cru que c'était le rabbin d'Orbi Jacob.
Alors non,
il fait je m'appelle Slimane et t'as la maman qui fait ah Seligman, voilà, ça me
voilà,
c'est pas, je pensais oui, à Orbi Jacob moi.
Et similaire. Mais non, c'est une ville sur la route 66 et c'est là qu'était installé un barbier qui s'appelait Angel. Ah, j'ai oublié son nom de famille, je suis impardonnable. Mais qui est donc la personne qui a milité pour que la route 66 soit classée monument historique, enfin route historique. Parce que, évidemment, pour tout un tas de villes sur la route 66, quand les interstates ont été construites, bah, d'un coup, c'est tout un business qui a disparu et c'est tout un tas de villes qui ont été plus ou moins rayées de la carte, quoi. D'ailleurs, pour la ville de Seligman, littéralement rayées de la carte, elle n'apparaissait plus sur les cartes. Et donc, t'as ce gars-là qui a milité toute sa vie pour que la route 66 soit devenue, soit inscrite au patrimoine historique. Et il a réussi, hein, et c'est ce qui permet à la ville de subsister. Et donc, c'est une ville qui a été visitée par les équipes de Pixar quand ils étaient en repérage pour faire le film Cars. Et donc, ce gars-là avait été interviewé par John Lasseter et les autres gars de Cars. Donc voilà, on s'était dit, on va faire un petit détour. On a fait les touristes, c'était bien. D'ailleurs, au passage, au Grand Canyon, tu sais ce que c'est la deuxième langue la plus parlée au Grand Canyon? Bah c'est le français, parce que le nombre de touristes français qu'il y avait, c'était incroyable. Ça parlait français de partout. J'étais là genre, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Apparemment, les Français sont grands fans des parcs et du Grand Canyon en particulier.
Et c'était les vacances scolaires. Je t'ai dit, 8 semaines, mon gars.
C'était les vacances scolaires, les 3 semaines? Ah, c'est possible, ouais. C'est possible, effectivement. Bref, donc moi, avec mon pied beau, là, j'étais quand même un peu... Enfin, ça s'arrangeait pas au fur et à mesure de la journée. Et alors qu'on franchit la frontière entre l'Arizona et la Californie, frontière naturelle d'ailleurs, qui est la rivière Colorado, sachez-le, on s'arrête pour prendre de l'essence et on s'arrête à une station-service où, au lieu d'avoir un 7-Eleven ou un Kmart ou un Circle K, c'était un dispensaire de cannabis. Donc c'était une combo assez intéressante, dispensaire de cannabis, station-service. Et je me dis, bon... J'ai déjà fumé de l'herbe, ça m'a jamais rien fait. J'ai déjà fumé du shit, ça m'a jamais vraiment rien fait. Mais j'ai jamais essayé les bonbons THC. Alors peut-être que ça va aider pour la douleur. Donc du coup, je me suis pris mon petit sachet, ce qui est entièrement légal, hein, bien sûr, hein, en Californie.
Ne faites pas ça chez vous, hein, je rappelle.
Ah, c'est complètement illégal en France. Hein, donc je vous déconseille d'essayer en France. Venez en Californie pour essayer, ça vous fera une expérience.
Ou pas. Moi, je suis toujours vierge de tout produit illicite.
Pas tellement. Bah, c'est pas illicite ici, c'est ça le truc.
Oui, bien sûr.
Et ça n'a pas tellement fonctionné pour la douleur, mais par contre, ça a bien fonctionné pour me faire penser à autre chose. Parce que oui, effectivement, alors c'est des petits bonbons aromatisés à la pêche qui sont délicieux, des petites gommes à la pêche, avec a priori un dosage de 10 mg de THC. Et ouf, ça m'a déglingué comme Jaja. C'est-à-dire que...
Je ne savais pas qu'on allait aller dans cette direction.
Mais ouais. Ben non, mais c'est toujours de la santé, hein, c'est toujours adjacent. Ouais. En fait, il se passait des choses et j'arrivais pas à savoir si ça se passait réellement ou si je les avais imaginées. Et tu vois, j'avais des moments de clarté où j'arrivais à me rendre compte que ouais, non, je suis défoncé, là, c'est pas possible. Mais si j'avais une conversation avec quelqu'un, 5 minutes plus tard, j'arrivais pas à savoir si la conversation avait vraiment eu lieu. Si j'avais parlé normalement pendant la conversation ou hurlé comme un débile, comme dans Las Vegas Parano. Enfin, tu vois, c'était une expérience très, très intéressante. Donc vraiment, ça m'a déglingué pendant 5 heures. Donc ouais, les edibles, comme on dit chez nous, bah ça marche. C'était assez impressionnant, mais ça n'a pas guéri mon pied. Et je retourne au travail 2-3 jours après. C'est de pire en pire. La douleur est de plus en plus insoutenable. On arrive à mercredi soir où j'ai mal en faisant rien. Donc du coup, je mets mon pied en hauteur, je mets de la glace dessus. Mais le simple fait de mettre le drap du lit, par exemple, dessus, tu vois, ça cause une douleur vraiment à la limite du supportable. Donc le jeudi, je vais à ce qu'on appelle le urgent care, qui est à mi-chemin entre ton médecin et les urgences. C'est pas les urgences, mais c'est urgent care. Mmh. C'est-à-dire que les délais pour voir ton médecin traitant ici sont tels que si tu veux un rendez-vous, il faut environ au minimum 3 semaines. Ta meilleure chance, c'est d'avoir un entretien en visio ou par téléphone avec un autre médecin. Parce que ton médecin à toi sera pas forcément disponible. Mais si c'est pour quelque chose qui est un peu urgent, mais qui est pas suffisamment urgent pour aller à l'emergency room, donc ce qu'on appelle les urgences en France, tu vas à l'urgent care. Alors l'urgent care, ça peut être une clinique privée ou ça peut être, bah, pour moi, c'est à côté de l'hosto, parce que à cause de mon assurance, c'est au même endroit. Et où là, on me dit, bah, écoutez, ça a pas l'air cassé, on va faire une radio. Alors effectivement, c'est pas cassé. Je me suis déjà cassé le gros orteil aux arts martiaux, ça a jamais fait aussi mal que ça, tu vois. Et on me dit, ce serait pas mal de vous faire une analyse de sang pour être sûr que c'est pas la goutte. Et moi, la goutte, alors je savais que c'était pas une maladie qui avait disparu, Mais parce que tu vois, la goutte, ça se traîne une réputation quand même d'être un truc qui faisait des ravages au Moyen-Âge et dont t'entendais parler, bah, surtout parce que les rois et les nobles l'avaient, quoi. Mmh. Parce que, globalement, t'en entendais pas trop parler en tant qu'épidémie qui ravageait les paysans pour une bonne raison, c'est que déjà, bah, c'est pas contagieux, mais ça se chope via la génétique et l'alimentation. Et l'alimentation, c'est le gibier, la viande rouge, l'alcool et les sucres. Et donc, évidemment, tout un tas de trucs que les pauvres n'avaient pas. Donc, c'est pour ça que c'était connu comme la maladie du bourgeois, du riche, quoi. Et je pensais innocemment que, globalement, ne mangeant pas vraiment de gibier, pas tellement de viande rouge et ne buvant pas trop d'alcool, bon, je devrais être plus ou moins épargné. Mais non, puisque la génétique joue aussi un gros rôle dans le truc. Et donc, si tu as une concentration d'acide urique dans le corps trop élevée, eh ben, si tu tires à la loterie et que t'as pas de bol, il y a a priori une personne sur dix qui est sujet à la goutte. Et oui, donc j'ai fait des analyses et j'ai eu la goutte. Voilà, c'était ça mon problème. Mmh. Donc ça n'avait a priori rien à voir avec la randonnée, mais ça fait putain de mal, la goutte. C'est une douleur, mais vraiment, je crois que c'est un des trucs les plus douloureux que j'ai jamais expérimenté de ma vie. Je le souhaite vraiment à personne, c'est vraiment pas fun.
C'est pas le plus douloureux que tu peux avoir, mais c'est en bonne voie.
Ah bah, j'imagine que c'est pas le truc le plus douloureux qu'on peut avoir, mais je me suis renseigné dessus. À l'époque, donc quand je parle du Moyen-Âge et tout, t'avais des mecs qui se faisaient amputer le pied tellement la douleur était insoutenable. Je comprends, parce que moi, une fois que ça a été diagnostiqué, on m'a filé des médocs, on m'a filé des stéroïdes qui ont des effets secondaires pas cool non plus, mais bon, au moins, ça joue sur la douleur. Mais j'ose pas imaginer des semaines et des semaines avec cette douleur-là. Oui, je comprends, il y a de quoi en devenir complètement zinzin. Donc voilà, cette longue introduction pour dire, essayez de ne pas avoir la goutte, mollo sur la viande rouge et sur le gibier, parce que honnêtement, si vous êtes sujet à potentiellement avoir des concentrations élevées d'acide urique dans le sang, bah faites gaffe. Parce que vraiment, vraiment, c'est pas fun.
Et je veux dire simplement, la morale de cette histoire, c'est la drogue n'est pas une solution.
écoute, ça a été une solution pendant 6 heures, mais effectivement, sur le long terme, non, c'est pas une solution.
Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
Alors, écoute, je m'attendais pas à cette chute. Je savais pas où t'allais.
On a pris des détours, mais
t'as pris des détours. Et il faut éviter ça quand tu traverses le Grand Canyon. Pour ma part, j'ai vu un documentaire au cinéma qui s'appelle Kingdom of the Planet of Apes.
Ah oui.
ouais. Et c'est, je pense qu'ils vont faire une nouvelle trilogie en fait.
C'est le plan, je crois. Hein.
Je crois enfin, que c'est le plan, pas, mais... c'est d'arriver, ouais. Arriver au fait que le Planet of Apes le normal soit le septième épisode. J'imagine que c'est ça ce qu'ils veulent faire. Et tu sais quoi, c'est le genre de film à chaque fois que je vois un de ces films de cette série de remake, je sais pas ce qu'on peut dire, c'est des remakes, mais plutôt.
Oh, c'est un reboot.
Ouais, de ce reboot en tout cas. À chaque fois que je rentre dans la salle, je me dis j'en attends rien. Je vais me faire chier, il y a les singes qui parlent et tout, machin, genre, c'est j'ai plus envie de voir ça. Et à chaque fois, je trouve que c'est un spectacle assez satisfaisant, en fait.
Ouais, tu te fais cueillir.
Les scènes sont plutôt jolies, les scènes de baston sont plutôt pas mal, les résolutions, la morale, il y a toujours une morale très, 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 beaucoup, très lourde dans les Planet of Apes. Genre, évidemment, c'est l'homme est un loup pour l'homme jusqu'à ce qu'il ferme sa gueule. Et puis évidemment, tout simplement, il y a des trucs de royauté. Hein. Celui-là, il s'appelle Kingdom, hein, tu vois, de tout est dans le titre.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fait, je crois que j'aime bien voir les petits poids-poils des singes et tout. C'est de mieux en mieux fait chaque année. Et c'est vraiment ce que j'appelle un blockbuster utilitaire, mais je trouve ça bizarrement satisfaisant. Donc j'ai peur, Benji, que le prochain, je vais me dire « Ah, chouette !» et que celui-là, ça va être celui où ça va être la chute.
Ah, t'as peur que le prochain, du coup, t'en attendes quelque chose et que tu sois déçu.
Ouais.
Ouais. Bah, et je suis un peu comme toi en même temps, hein, je t'avoue. Alors, je t'avoue, j'ai détesté le tout premier, celui avec James Franco.
Mais celui que tout le monde déteste.
Ah non! Ah non, non, le premier, attends, mais le premier, tout le monde en disait du bien à l'époque.
Non, hein. Non, pas Super Ciné en tout cas.
Ah bah Super Ciné, je sais pas, mais moi je me rappelle que les échos étaient super positifs sur le premier. Non. Et moi je l'ai vu et j'ai détesté, j'ai trouvé ça catastrophique. C'est pour ça que le 2, je m'attendais vraiment à rien. Et il m'a, comme toi, il m'a cueilli. J'ai beaucoup aimé le deuxième.
S'il y a trop de James Franco qui joue du piano avec un singe, c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir.
Non, et surtout, le premier est vraiment con du début à la fin. Il y a rien qui va dans le scénar. Ils sont tous teubés.
Et après, ils ont compris le truc. On met pas de stars. On met pas.
Ouais, voilà.
Ça sert à rien de mettre des stars.
La star, c'est le singe. Voilà, c'est tout.
Ou alors, il faut mettre Woody Harrelson qui est ridicule. Et ça passe parce que Woody Harrelson, tu payes, il est content d'être là et tout. Donc j'ai passé un agréable moment. Et je sais que toi, t'as vu un film que j'ai entrevu cette année, à savoir Fall Guy.
Oui, j'ai vu Fall Guy. Tu l'as revu ou pas? Parce que
non, j'ai pas revu.
Tu avais raconté t'être endormi devant, mais t'avais envie de le revoir.
Je me suis pas endormi devant. Je suis tombé dans le coma devant presque. Tu vois, pour résumer pour ceux qui n'avaient pas écouté cet épisode.
C'était la semaine où t'étais à l'hôpital avec ton fils, c'est ça?
Voilà. Et c'était juste genre, je venais de poser la famille, j'ai dit, j'ai une projo dans une heure. Écoute, j'ai besoin de me prendre l'air. Et effectivement, heureusement qu'on est deux dans ce cas-là. Et big up à tous les gens qui sont solo pour ce genre de mission. Mais heureusement qu'on est deux. Là, j'ai dit, écoute, j'ai passé la nuit à l'hôpital. J'aimerais bien avoir 3 heures de break à aller voir Fall Guy. Et je crois que la première seconde... Non, je vois encore la première scène. Je vois l'origin story, la première scène. Et après, je ne peux rien te dire, à part que je me souviens de qui fait quoi et de qui est le traître et qui machin un truc.
Ouais.
Mais sinon, pour moi, mais c'est un flou très agréable parce que j'ouvrais un œil et il y avait des trucs qui me tombaient au visage. Et honnêtement, j'espère que Titanic, le jour où je le verrai, ça me fera ce genre de sensation. Genre un truc où je suis bien, je suis dans un autre, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, ce genre de sensation. Et sans utiliser de drogue, je le précise, monsieur François.
Écoute, j'ai vu Fall Guy sans prendre de drogue. Alors, que dire? C'est un film de David Leitch et je pense que les gens qui détestent déjà le cinéma de David Leitch ne seront pas plus convaincus par celui-là. Mais je l'ai trouvé assez agréable à suivre, notamment parce que il est porté par ses deux personnages principaux, Ryan Gosling et Emily Blunt, qui sont formidables. Et où il y a une vraie alchimie entre les deux. Et j'ai trouvé le film vraiment agréable à suivre. Je trouve qu'il y a un bel hommage aux cascadeurs, alors notamment dans le générique de fin, quand tu vois toutes les doublures cascades, toutes les scènes, tu vois qu'énormément de choses ont été faites en dur. Voilà, c'est pas pour faire le procès de la CGI, parce que il y a forcément de la CGI, il y a forcément de la compo derrière, et c'est absolument pas mon propos, mais il y a un amour des cascades faites en dur, pas sur un fond vert, et ça se voit, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt réjouissant. J'ai passé un bon moment. Alors oui, comme je le disais, il y a pas mal de défauts, hein. Je veux pas non plus en faire le film de l'année, mais pour un film d'action hollywoodien avec un lead cast sympathique et qui a pas pour ambition de révolutionner le cinéma. Je sais pas si t'as vu Rebel Moon partie 2. Moi toujours pas, mais j'en ai vraiment aucune envie, tu vois.
Moi oui.
Je pense que Fall Guy est une proposition largement plus sympathique sans avoir vu la partie 2 de Rebel Moon, parce que j'ai vu la partie 1. Et j'ai passé un bon moment. Ouais, je pense que Fall Guy est un de ces films sympas que tu vas voir une soirée pour passer un bon moment, que j'aurais oublié dans 3 mois sans aucun doute, mais qui ne m'a pas insulté et qui ne m'a pas que j'ai suivi sans déplaisir, en fait. Donc c'est vraiment un bon petit film doudou que j'aurais probablement plaisir à revoir d'ici quelques années quand il sera disponible en streaming, tu vois. C'est vraiment le film sans prétention passe le temps agréablement, même si évidemment, oui, il y a énormément de problèmes, parce que David Leitch, c'est pas le meilleur réalisateur du monde, c'est pas le type le plus fin du monde, qui réinvente rien, mais je trouve qu'il y a un certain amour de ce qui est fait dans le film, un amour de la cascade qui est visible, en fait. Et puis un petit caméo de Lee Majors, voilà, ça mange pas de pain.
Lee Majors ne regarde pas ce qu'il pense politiquement. Juste un conseil.
Je m'en doutais globalement, et je préfère ne pas y penser.
Écoute, puisque tu m'as un peu mis, tu m'as un peu titillé à parler de Fall Guy, je me suis dit, tiens, je vais regarder la liste des derniers films que j'ai vus au cinéma, puis je tu sais, Letterboxd et tout, et je fais des listes. J'en suis à 63 films cette année.
Ah oui, pas mal.
Et il y a Cannes qui commence dans deux jours, donc ça devrait, il y a Furieux, je commence avec des trucs genre Furiosa. Donc,
vas-tu à Cannes cette année?
Oui, je vais à Cannes cette année.
D'accord.
Et je te fais pas le topo, tu sais, les gens qui se plaignent en disant, oh là là, c'est dur parce que on se lève tous les jours à 6h50. En fait, tu sais, il y a un truc de réservation.
Dure la vie, hein.
Ouais. Et en fait, mais alors, c'est, je pense que mettre en emphase le fait que tu te lèves à 6h45, c'est nul parce que moi j'ai un gamin, il se réveille à 7h.
Non mais
voilà, c'est ça fait aucune différence.
Il y a énormément de gens qui se lèvent plutôt juste pour aller au taf, quoi. Là, c'est pour aller voir des films.
Par contre, d'avoir le stress que à 7h tout se joue, genre ton voyage se joue à ça et genre tu te dis oh là là, est-ce que je choisis le Yorgos Lanthimos ou est-ce que je choisis le Paul Schrader ou est-ce que je choisis la Belle de Gaza? C'est ce que je vais devoir choisir entre demain. Ou est-ce que, par exemple, il y a la énième diffusion de Bird, mais que j'aurais loupé. Ou encore The Invasion de Sergei Loutnitsa. Enfin, tu vois, que des films qui vont me mettre le baume au cœur à 8h du mat. Parce que, en général, je pense toujours à ma camarade Vesper qui vient avec moi cette année. Et ma camarade Vesper qui commence avec le film de Steve McQueen sur... sur Amsterdam sous l'occupation, un film qui dure 4 heures.
Ouf.
C'est un film documentaire de 4 heures sur Amsterdam sous l'occupation. Et c'est son premier film à Cannes. Et je me dis, tu vois, parfois, il ne faut pas sous-estimer l'appui.
Ouais, il y a moyen de se prendre un coup de massue violent dès le début et d'être démoralisé pour tout le reste du festival avec un truc comme ça.
Et c'est super, et c'est un chouette film. Mais mon dernier film, malheureusement, c'est Unfrosted de...
Jerry Seinfeld.
Jerry Seinfeld, et c'est une catastrophe. Mais alors, c'est une catastrophe, mais c'est d'un niveau, mais tu sais, c'est comme... Honnêtement, en termes de rigolade et de confiance en soi versus rigolade, ça me fait penser aux inconnus qui ont refaire leur sketch avec Kev Adams et tous les humoristes et Jérôme Commander et tous les humoristes d'aujourd'hui et Pierre Palmade. J'aime bien dire ce qu'il y avait Pierre Palmade dans le lot. Ça a vraiment vieilli d'un coup, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils ont demandé à tous ces jeunes stars de refaire les sketchs et ils ont fait une soirée spéciale des inconnus. Bah, ça me fait penser à ça, quoi. C'est jamais drôle. C'est très, très mal joué. Oh là là, c'est quelle catastrophe, quoi.
Non, mais c'est la faute du politiquement correct. Jerry Seinfeld, il arrête pas de le dire sur Twitter.
Tu sais, je comprends pas Jerry Seinfeld parce que pendant des années, il disait, moi, je fais des spectacles où il y a pas de, c'est pas des roasts. Je suis pas là pour me moquer des gens. Je pense qu'on peut être, on peut faire rire et en étant bienveillant. Et il faisait des spectacles comme ça.
Ah ben, je te confirme, il faisait pas que le dire, il le faisait parce que ces Netflix specials, c'est les trucs les plus inoffensifs que j'ai jamais vus de ma vie, quoi. C'est vraiment inoffensif et limite, c'est pas drôle, en fait.
Mais c'est son style. Mais après, tu vois, je pense qu'il y a quand même un delta entre ce qu'il fait lui et Redouane Bougueraba. Alors, toi, tu ne connais pas Redouane Bougueraba là où tu es.
Non.
Mais il a une chaîne YouTube, je te recommande. Je suis fasciné par Redouane Bougueraba. Je suis fasciné.
D'accord.
Et je l'ai découvert vraiment récemment quand j'étais à l'hôpital avec mon fils. Genre, je me suis dit, il faut un truc pour vider la tête sur le chemin vers l'hôpital. Et je me regardais des bouts de sketch, mais même pas des sketchs, des roasts. C'est-à-dire, et parfois, c'est d'un niveau nul. Et en même temps, il a un bagout et une aisance, une facilité qui fait que j'en regarde un, puis j'en regarde un autre. Et puis ensuite, j'arrivais à Jérôme, je lui disais, t'as vu celui de Grenoble où il parle à la meuf qui peut partir de... Genre, c'est parfois...
Ah, est-ce que c'est le mec qui insulte les gens dans son public?
Ouais, c'est lui.
Ok, alors j'ai entendu parler de lui, mais je n'ai jamais rien
c'est
vu
une
de
légende.
Lui. C'est tout ce que j'ai entendu de lui, c'est qu'il insulte les gens dans son public.
Mais limite, si tu tombes mal un certain jour, le début peut être mieux que l'après, parce que tu connais peut-être les sketchs ou...
D'accord.
Ou peut-être que... Voilà. Mais... Et il paraît, il aime raconter ça, hein, c'est un Marseillais, il aime bien, il est la caricature, il se fait une caricature de Marseille, il dit, ouais, moi, je dis, enfin, tu vois, il amplifie, quoi.
Ouais.
Et il dit, les places de mes, les premières places, là, les premiers rangs se revendent à entre 500 et 5000 euros, et le mec qui revend ses places, il gagne plus que moi sur scène, quoi. Je pense qu'il se la raconte un tout petit peu quand même. Je sais pas qu'il va payer 5000 euros pour être, je sais même pour un virgule au premier rang.
Attends, surtout qu'au point virgule, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de rangs, quoi.
Non,
je suis allé au point virgule, il y a deux rangs.
C'est quoi, il y a ça? Tu peux faire rentrer 300 personnes, maxi, quoi.
Au point virgule, c'est plus petit que ça, même.
Ouais,
ou alors, peut-être que j'étais dans la salle B du point virgule, mais moi, le point virgule où je suis allé,
ouais,
globalement, t'es autour de la scène. Et il y a trois rangs, quoi.
Mais je suis fasciné par ce mec. Parce qu'il a une aisance, une assurance. Et en même temps, je te jure, franchement, il faut que tu regardes. Je sais pas si c'est sur Prime, hein, donc peut-être que tu peux avoir accès.
Ah, peut-être.
Mais tu vois, Bougaraba, là, ça commence par 20 minutes. Il est sur une scène au centre à Paris. Et il rose les premiers rangs. Et c'est d'un niveau, parfois... elle est gros, elle est Sri Lankais. Ah bah vous êtes pas en train de vendre des roses. C'est vraiment parfois à ce niveau-là. Et si tu survis à ces, je pense que c'est une épreuve. Si tu survis à ces 20 minutes de roast après le sketch, le vraiment c'est pas mal. Il y a un bon fond et tout ça. C'est je vois l'ambition artistique là-dedans.
Ouais.
Mais moi je suis complètement fasciné par ce mec. Complètement.
Moi j'ai un problème sur le principe de base, c'est que le roast pour que ce soit drôle. Il faut déjà que tu connaisses la personne que tu roastes et que tu aimes la personne que tu roastes. C'est pour ça que les Comédie Centrale roast, ils sont jamais aussi drôles que quand tu sens qu'il y a une vraie amitié, un vrai lien entre le roaster et la personne roastée. C'est pour ça qu'un des moins bons roasts, c'est celui de Justin Bieber, où tu sens que les gens, ils le détestent et donc ils lui cartonnent la tête. Alors que quand t'as Demi Moore qui vient roaster Bruce Willis, bah là, tu vois, c'est drôle. Quand t'as Seth Rogen qui vient roaster James Franco, c'est super drôle. Là, j'ai un peu de mal en me disant que c'est juste un gars qui balance des trucs sur des inconnus dans le public. Comment tu veux qu'il fasse des roasts intéressants, quoi?
Bah ouais, c'est souvent genre, ah bah t'as des lunettes. C'est vraiment, c'est à ce niveau-là. Genre, vraiment, il y en a un, tu t'appelles comment? Sylvain, fils de pute. C'est presque à ce niveau-là. Hein.
Ouais, d'accord.
C'est presque à ce niveau. Mais franchement, il y a un truc très fascinant. Je suis fasciné et je comprends complètement la nature décadente de ce que je suis en train de voir. C'est vraiment...
D'accord. Hein.
Et alors, puisqu'on est dans les comédies, je regarde en ce moment Comedy Class.
Ouais.
Qui est host par... donc, c'est un truc genre Real TV. On est en train de faire des castings pour savoir qui sera l'humoriste de demain.
Ouais, c'est La Classe avec Fabrice.
C'est La Classe avec Fabrice, sauf qu'elle est présentée par Eric et Ramzy.
Ah.
Et alors, tu sais quoi? Il n'y a pas un épisode où ils me font pas mourir de rire.
Ah, c'est, en même temps, c'est Eric et Ramzy.
Eux, il y a un truc chez eux de naturel où ils se rosent tous les deux, où ils ont un truc de connivence. Bah, ils se connaissent depuis qu'ils
sont là.
Enfin, je veux dire, ils ont
ça. C'est pour ça que ça marche.
Et alors, moi, ça marche à tous les coups. Et je suis très, très, très client. Je trouve qu'ils ont un truc un naturel. Et en même temps, juste pour te dire, la première fois qu'on voit Eric et Ramzy dans le show, ils sont sur la plateforme du crayon, tu sais, celle qui surplombe la Concorde et où en général les footballeurs viennent pour faire ouais, on a gagné une Coupe du Monde.
Ouais.
Ils l'ont pas fait depuis 4 ans en tout cas. Et ils sont là, ils disent ouais, nous on est là, on se souvient de nos débuts et on a commencé ici. Ils pointent le crayon. on est resté terre-terre. On écrivait nos sketchs. On n'avait même pas 70 balles en poche pour faire le room service. On mangeait du pain avec du beurre. Et tu sais, genre vraiment, ils sont en roue libre totale. Il faut le voir.
Ouais.
Et je suis mort de rire. Ils sont un spicé de rire. Vraiment, à chaque fois. Et ce qui est rigolo, bah, c'est qu'ils jugent d'autres personnes. Alors, ils essayent quand même d'être bienveillants. Tu sens que parfois, ils sont obligés de se contrôler un petit peu. Ils ne peuvent pas dire exactement ce qu'ils veulent. Mais en même temps, ils sont quand même très, très cash. Et ils n'oublient pas qu'ils sont un public de juges. Et en plus, parfois, il y a un guest qui vient les assister, hein, qui vient faire le troisième jury. Alors, il y a Marina Foïs. Il y a Jean-Pascal Zadi.
Ah, je suis très client de Jean-Pascal Zadi.
Il y a Yvick et il y avait Florence Foresti.
D'accord.
Et honnêtement, on s'éclate bien. Franchement. Et la plupart des jeunes, alors tu sens que c'est l'effet Comedy Club. C'est-à-dire que maintenant, on voit toute une génération de gens qui ont bu ça, qui ont été élevés à ça et qui ont ça dans le sang.
Bah, Yvick notamment.
Yvick. Et du coup, ils ont déjà le phrasé, ils ont déjà le tempo, ils ont déjà la rythmique,
ouais.
Ils ont parfois le contenu et tout. C'est vraiment, c'est assez fascinant de voir. Il y en a qui se détachent du lot. C'est pas des nulos. Alors que moi, d'habitude, genre quand je suis dans, il faut vraiment s'accrocher pour me faire rire parce que il y a des moments où genre ça va pas du tout. Et là, franchement, il y a 2-3 fois où tu rigoles pas, où il y a le mec marseillais qui vient de faire la bite la plus grosse et tout. Et c'est un truc que t'as déjà.
La manière dont tu résumes ça, c'est.
Non, mais vraiment, il te fait des sketchs sur la bite, ça va, quoi. Et,
Oui, tu vois, Bigard l'a déjà fait il y a 30 ans, ça.
Oui, voilà, c'est déjà Bin Verdonvet. Bref, je sais pas si c'est disponible chez toi parce que c'est Amazon. Mais
je regarde, ouais.
Comedy Class et surtout leur présentation. À chaque fois qu'ils font une petite présentation, ils sont à se pisser de rire. Tu sens qu'ils sont en impro total. Et moi, ils me font pleurer de rire.
Tu vois, LOL qui ressort était pas dispo pendant super longtemps. Je sais pas si ça a changé depuis, mais c'est pas forcément dispo parce que c'est Amazon en fait. C'est tout ce que.
Et je sais pas si je peux te faire mon top 3 Eric et Ramsey comme ça. Mais en tout cas, moi, je vais te faire deux recommandations. Là, c'est Marocco.
Vas-y.
C'est ma recommandation à toi qui est aux États-Unis, qui est coupé de la réalité française et parisienne et tout, de l'humour même, parce que tu as arrêté,
complètement,
de rire. Donc, moi, voilà, ma recommandation, Eric et Ramzy, c'est la vidéo qu'ils font chez...
Chez Squeezie ?
Non, chez Carlito, je suis nul en YouTuber. Chez Carlito et Guy, le fils de Guy Carlier.
Bah, c'est Carlito, le fils de Guy Carlier.
Carlito et l'autre, c'est McFly. McFly. Putain, mais vraiment, les mecs, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, mais d'où ils sortent? Bon, bref, McFly et Carlito. Et à la cinquième minute, il y a un Lego. Il y a le croiseur de l'Empire.
J'ai entendu parler de cette histoire.
Des larmes de rire.
J'ai entendu parler de cette histoire.
Rire. Ça, c'est extraordinaire. Et bien sûr, il y a la vidéo où ils sont chez Squeezie.
Voilà, la vidéo chez Squeezie, je l'ai vue et je confirme, j'en avais mal aux côtes tellement j'ai rigolé. C'était...
J'ai pleuré.
C'était incroyable.
Et j'avais mis Amandine devant, je lui ai dit, écoute, je vais te montrer un truc. Juste le début, elle me dit, j'ai pas le temps, je travaille et tout. Non, elle est très sérieuse et tout. Mm-hmm. Je fais là, j'ai réussi à faire. Non, mais regarde, juste 10 minutes, c'est 10 minutes d'Eric et Ramsey. Et là, elle dit... Non, mais il faut que je voie la suite. Le truc, il dure une heure.
Donc, c'était extraordinaire.
Et donc, je mets Comedy Class dans leur grande présentation.
Dans le top 3, ok.
Dans leur prestation. Parce que je préfère ça à ce qu'ils ont fait dans LOL qui ressort parce qu'ils sont opposés. Enfin, voilà.
D'accord. Très bien. Écoute, je vais reprendre. Je vais parler d'un film que j'ai vu récemment, que j'ai vu avant de voir Fall Guy, que j'ai vu notamment pour sa bande-son parce que. Quand c'est méga sûr, Trent Reznor et Atticus Ross qui font la BO, j'essaye d'aller voir les films en salle. Je suis donc allé voir Challengers.
Dont tout le monde parle.
Alors, je ne sais pas si tout le monde en parle, mais en tout cas, je suis allé le voir et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu l'as vu, toi, Challengers, Daniel ?
Non, je devrais aller le voir, mais je sais pas. Ça ne sera pas mon 64e film.
Bon, très bien. Moi, j'y suis allé en connaissant... assez peu de choses au final. Déjà, faut savoir que je n'avais pas vu, j'ai pas vu Call Me By Your Name, qui est le film qui a un peu fait connaître Luca Guadagnino, je crois, je sais pas comment ça se prononce, qui était donc son précédent film. Sauf que non, attends, c'était pas son précédent film, il a fait Suspiria depuis et Bones and All. Donc tu vois, je dis n'importe quoi. Call Me By Your Name, on va dire que c'est le film qu'il a fait connaître du grand public. Mais j'ai vu aucun de ces films-là. J'ai pas vu son remake de Suspiria, j'ai pas vu Bones and All. Et donc je suis allé voir Challengers, surtout pour la bande son en fait, mais au final j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé le film. Alors je sais qu'il est très clivant, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup d'entre deux, soit on déteste soit on trouve ça vraiment bien. Et négliger, il y a quelques trucs qui relèvent un peu des effets de style un peu tape à l'œil dont on aurait pu se passer. Il y a quelques choix de mise en scène où je me suis dit, là, ouais, bon, ça, je vois pas bien ce que ça apporte. Franchement, c'est vraiment gimmick. Mais il y en a d'autres où j'ai vraiment été cueilli. Et puis, pour parler vite fait de l'histoire, donc c'est l'histoire de deux gars qui sont des étoiles montantes du tennis qui rencontrent une meuf qui est donc jouée par Zendaya, qui est elle aussi étoile montante du tennis, mais côté féminin. Et globalement, il y a une relation qui va commencer à s'installer entre les trois personnages, les trois protagonistes, et une relation donc sur fond de tennis et d'amour et une histoire qui globalement est vraiment super. J'ai trouvé vraiment bien écrite et qui retranscrit mais de manière super intéressante la tension qui peut exister sur un match de tennis. Il y a en filigrane un match entre les deux mecs et puis des flashbacks qui vont te retracer toute l'histoire, toute leur historique, d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, qu'est-ce que elle est devenue, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que moi j'ai fait un peu de tennis quand j'étais gamin, mais j'en ai pas beaucoup fait. En revanche, mon père en avait pas mal fait. J'ai jamais compris comment fonctionnent les classements au tennis, donc je saurais pas te dire s'il était bien classé ou pas, mais mon père était classé. Donc le tennis était vraiment un truc super important pour lui. Et mon père me disait toujours que un match de tennis, ça se joue à 70% dans la tête et ensuite à 30% le physique. Et bon, je suis plus sûr des pourcentages, mais globalement c'était ça, c'était majoritairement dans la tête.
Mais je connais ton père et il a bien un physique à dire ça.
Je sais pas ce que c'est supposé vouloir
non,
dire.
Non, c'est une blague. Okay. J'adore ton père en plus.
Mais
il est adorable. Mais il nous écoute pas. Donc je peux la refaire là.
T'en sais rien qu'il nous écoute pas. Il nous écoutait à une époque, mes parents.
C'est vrai. Oh, merde, il va bien rigoler.
Mais en tout cas, je trouve que le film retranscrit bien ce côté. Bah oui, la concentration, le mental, c'est un truc qui joue énormément. Et j'ai été assez épaté. Parce que, alors, je sais pas à quel point c'est les vrais acteurs qui jouent. Je sais pas à quel point on a mis leur tête via l'informatique sur le corps d'autres joueurs. Mais j'y crois, en fait. Quand je vois ces échanges, quand je vois ces trois acteurs jouer au tennis, je trouve ça relativement crédible. Tu vois, c'est pas, malgré tout le bien que je peux penser de Ted Lasso, quand tu les vois jouer au foot, c'est clairement pas des joueurs qui sortent de première ligue, tu vois. C'est vraiment, c'est même pas une division amateur, quoi. C'est vraiment des gens qui savent pas jouer au football. Et ça se voit, c'est criant, c'est vraiment terrible à voir. Alors que là, dans Challengers, à chaque fois, j'y croyais, j'étais dedans. Et j'ai trouvé, ouais, non, l'histoire intéressante, la mise en scène avec pas mal de bonnes idées. Il y a quelque chose, quoi. Ça a vraiment su saisir quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment réussi. Et alors, la bande-son est incroyable. Donc, du coup, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai passé un excellent moment. Donc, s'il passe encore près de chez vous et vous hésitez un peu, moi, je vous recommanderais d'aller vous faire votre propre opinion et d'aller voir Challengers.
Et d'affronter ton père au tennis.
Et de... Bah, oui, alors, il a un peu arrêté le tennis. Maintenant, tu sais, il a 70 ans, mon père. Il s'est mis au golf.
C'est vrai. Ah bah, écoute, ouais. C'est mieux.
C'est, je pense que pour le cœur, pour le physique, c'est mieux. Il y a un âge où il faut savoir s'arrêter. Tu vois, Michel Berger aurait dû le savoir.
Oh, humour noir. Bravo.
C'est pas vraiment de l'humour. Hein. C'est pour dire que c'est dangereux, le tennis passe un certain âge.
Lagardère est mort. Genre, il est sorti du...
Ah bah oui.
Et il était super, super fringant et pouf, d'un coup. Quoi.
Ah ouais, non, mais parce que le tennis, c'est plein d'accélérations super intenses et d'efforts super brutales. Mm-hmm. Donc, ouais, non, il y a un moment où
malaise vagal est
vite arrivé.
Et en même temps, ça ne concerne... notre auditoire est quand même plus jeune, donc ça va. Non,
ouais, je sais pas. Je sais pas si on a beaucoup de soixantenaires qui nous écoutent.
Je sais pas. Oui, non, sauf si ton père nous écoute.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
Benji, tu voulais revenir sur quelques jeux, j'imagine.
Ouais, je joue à des jeux vidéo en ce moment. Tu sais, je joue toujours à des jeux vidéo. J'ai terminé Yakuza 6.
Ouais, d'accord. C'est marrant, je joue au 8 là en ce moment.
Ouais, bah moi tu me connais, hein, faut que je les fasse plus ou moins dans l'ordre. J'ai adoré Yakuza ouais, 6.
Le 6 il est super.
Je me demande si c'est pas mon deuxième préféré après le 0. Ça se joue à pas grand chose.
Ah, toi t'es un zéroïste parce que.
Ah, j'ai vraiment adoré le 0. Ouais.
Je suis vraiment pas un zéroïste, pas du tout moi.
Ouais, non, moi j'adore le 0.
Mais toi t'as fait 0, 1, 2, 3 ?
Non, j'ai fait 1, 2, version PS2.
Ah ouais.
3, 0. 4, 5, 6. Et ce qui n'est pas vraiment un ordre que je recommanderais.
Ce n'est pas l'ordre traditionnel de personne, en fait. Mais
le 0, il était là et je me suis dit, bon, allez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un Yakuza. Et là, en fait, le 3 m'avait un peu dégoûté, quoi, parce que j'ai vraiment...
Ouais, le 3, il dégoûte tout le monde. Ouais.
J'ai passé un mauvais moment sur le 3 et tout le monde me disait, non, mais fais le 0, il est bien. Du coup, je me suis dit, bon, avant de faire le 4, je vais faire le 0. Et ouais, du coup, j'ai...
Moi, j'ai des problèmes avec le 0, mais ce n'est pas un mauvais jeu, mais j'ai des problèmes avec le 0.
Mais ouais, non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le 6. C'était incroyable. C'était un ride. Je l'ai pas fait à 100% parce qu'il y a des trucs, je crois, qui imposent de le finir en difficulté légendaire pour avoir le platine. Enfin, bref. Mais j'ai fait toutes les missions secondaires et tout. J'ai fait un gros paquet de mini-jeux. Et j'ai découvert. Il y a un truc qui m'a rendu assez fou, c'est que j'ai découvert en post-game que j'étais passé à côté de plein de missions parce que en fait j'avais un peu laissé de côté tout l'aspect baseball.
Ah.
Parce que il y a un mini jeu de baseball dans lequel tu joues pas vraiment au baseball, dans lequel en fait tu gères une équipe de baseball et de temps en temps on te demande de passer à la batte, mais c'est vraiment mineur.
Pour une fois que tu tu commandes pas des host clubs. C'est pas mal, non?
Oui, voilà, il y a assez peu. Bah déjà, je t'avoue que le cabaret, c'est ce qui m'a fait beaucoup aimer le zéro. Mais oui, alors il y a des trucs super cringe. Le vidéo chat avec les actrices de cul, c'était méga cringe. Gros moment de malaise quand j'étais en train de jouer à ça et que ma femme est rentrée dans la pièce.
Alors, ce n'est pas que des actrices pornographiques. Attention, il y a aussi des mannequins ou des.
Ah non, le vidéo chat, c'est deux actrices de cul, Daniel.
Ah oui, d'accord. Bon, mais
le vidéo chat.
En général, si je regarde et je fais, non.
Le vidéo chat, c'est sûr, c'est deux actrices de cul. Les hôtesses, par contre, oui, je crois qu'il y en a qui sont modélisées sur.
Ah voilà, c'est ça dont je voulais parler.
Ouais. Et je crois que sur les hôtesses, il y en a une, c'est genre une youtubeuse. Il y en a une, c'est une gravure idol. Les autres, ça doit être des actrices de cul aussi. Mais le truc, c'est que le vidéo chat, c'est les vraies vidéos. Donc ça m'a vraiment posé un souci. Et il paraît que oui, pour la drague dans les bars à hôtesses, dans les épisodes récents, c'est aussi de la vidéo. Et ça va être méga cringe. Mais bon, bref.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils arrêtent un peu sur ce côté-là.
Bon.
Mais le vrai enjeu de Yakuza, enfin de Like a Dragon, c'est que maintenant, les Yakuza ont une tendance à disparaître au Japon. C'est vraiment une vraie tendance de fond comme la population, genre, il y a vraiment un problème de.
Oui, la population a tendance à disparaître aussi, ouais.
De renouvellement de Yakuza, et genre, vraiment, ils ont des vrais soucis là-dessus, et surtout, elles se modifient. Le jeu qui s'appelle Lost Judgment, que tu vas peut-être faire un jour.
Que je vais faire, ouais, puis il est dans ma liste, je l'ai.
Parle justement pas mal de ça, et des Hangure, qui sont une nouvelle forme de criminalité qui est beaucoup plus horizontale, c'est-à-dire qu'il y a moins de leaders, mais du coup ça veut dire qu'il y a moins de leads, donc ça veut dire que c'est un peu plus sauvage, qui est en train de remplacer ça et qui est aussi mené aussi par la pègre des autres pays, la pègre de Corée, la pègre de Chine, enfin c'est la criminalité est en train de changer au Japon. Et en fait, c'est aussi le thème du Ryuga Gotoku de Like a Dragon, pardon, que je suis en train de faire. C'est le 8. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrête d'être yakuza, en fait?
Ouais.
C'est vraiment un petit goût de passé, là. Enfin, c'est vraiment assez intéressant ce que je suis en train de vivre. Je suis à la fin et je suis vraiment, vraiment à la fin au moment où je te parle. D'ailleurs, j'allais streamer ça ce soir et on s'est dit, ah ben non, on enregistre.
On va enregistrer à la place. Mais donc, ouais, bon, le 8, je peux pas dire encore quand je vais le faire, parce que oui, il faut que je fasse Judgment et Lost Judgment avant. Je pense que entre les deux, je ferai certainement Ishin, et j'essaierai de caser le Yakuza, Ken le survivant, à un endroit, même si je sais qu'il est pas forcément génial, mais je l'ai, donc faudrait que je le fasse, avant d'attaquer, donc le premier Like a Dragon, donc Yakuza 7, puisqu'il change de formule, et donc j'aimerais bien, un peu terminer les épisodes un peu classiques, entre guillemets, avant ça. Mais donc le 6, non, j'ai vraiment j'ai tout aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les quêtes secondaires, parce que faut le reconnaître, dans Yakuza, dans la série Yakuza, un des petits plaisirs, c'est les quêtes secondaires complètement débiles qui sont à chaque fois super drôles.
Je pense que si tu fais pas les Like a Dragon en te disant je fais toutes les quêtes, je pense que tu passes à côté d'un truc, parce que
tu passes à côté de tellement de choses,
parce que c'est un truc quand même qui est devenu leur qualité, quoi, en fait.
Ouais.
C'est où tu joues à un jeu de Yakuza. Mais tout le truc intéressant, c'est ce qui n'est pas Yakuza.
C'est l'écriture des mini-quêtes, tous les systèmes de jeu alternatifs, parce que dans Yakuza, tu gères un gang aussi, maintenant, dans celui-là. Donc là, pareil, j'ai fait le truc du gang quasiment au maximum. Il y a vraiment des trucs, des idées, à chaque fois des idées débiles, des idées super drôles. Et puis en plus, quand tu fais uniquement la trame principale, mais tu passes à côté tellement de trucs, enfin... C'est-à-dire, quand tu fais que la trame principale, tu peux encore croire que Kiryu n'a jamais tué personne et n'a jamais couché qu'une seule femme. Mais c'est ça qui est drôle. Canoniquement, oui, mais derrière, tu fais tous les autres trucs annexes. C'est évident que non, quoi. Il bute des mecs à la pelle, il couche sans arrêt. C'est super drôle.
C'est aussi le problème de la série, c'est qu'il fait des personnages qui sont trop faciles à aimer, en fait. C'est-à-dire, ils ont pas de défauts, souvent, enfin, genre...
Kiryu, c'est un parangon de vertu qui s'est retrouvé Yakuza, limite, par accident, quoi. Enfin, ouais, c'est ça qui est ouf.
Kiryu, vraiment, n'a pas de sens, hein.
C'est une licorne. Il peut pas exister, Kiryu.
C'est vraiment une version romantique de la criminalité qui n'existe pas, quoi.
Et même Majima, qui, au fur et à mesure des épisodes, devient de plus en plus droit, enfin, tu vois, c'est pas possible, quoi. Le mec, quand tu sais d'où il part, enfin, voilà.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop le Zero, c'est-à-dire... J'aime pas trop le traitement de...
J'ai bien aimé, moi, son origin story. Et pendant que j'ai la chatte qui commence à hurler, parce que tout à l'heure, pendant que tu parlais, je suis allé la récupérer, car elle gueulait de l'autre côté de la porte, et maintenant, elle gueule parce qu'elle veut sortir. Donc, tu vois, c'est les chats, ça. Donc, oui, Yakuza 6, vraiment un excellent moment, j'ai vraiment adoré. Le petit point Kingdom Hearts, j'ai battu Cerber. Et je m'y suis recollé, j'ai battu Cerber et maintenant je suis sur le monde Tarzan et bon, je me fais chier un peu. Je t'avoue que le premier Kingdom Hearts, je galère un peu pour progresser parce que c'est compliqué. Je joue à Final Fantasy 3 et Final Fantasy 3 est sympathique. Là où le 2 m'avait vraiment fait passer un très très mauvais moment avec son système d'XP qui était complètement éclaté au sol. Pour le 3, ils sont revenus à quelque chose de beaucoup plus classique avec des jobs dont on peut changer un peu comme on veut. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal fait. L'histoire est d'une banalité confondante, mais c'est pas très grave. C'est plutôt agréable à jouer. Alors, j'y joue sur Vita. Donc, je ne joue pas la version Pixel Remaster. Donc, je n'ai pas l'XP x4. Donc, je grind. C'est le côté un peu chiant. C'est que je suis obligé de grinder vraiment, vraiment beaucoup. Mais sinon, ça reste quand même relativement agréable. Et le jeu auquel sur lequel je me suis collé depuis quelques jours, c'est un vieux truc qu'on m'avait prêté à l'époque sur NES et que je n'avais jamais terminé. Et ça faisait partie de ces jeux où je m'étais dit un jour, je le reprendrai. Je joue à Faxanadu.
Ah, d'accord, ok. Je vois très bien.
Et Faxanadu, c'est un jeu d'arcade aventure matiné d'un petit peu de RPG qui peut rappeler un peu Zelda 2 dans son approche parce que c'est vu de côté. Tu diriges un petit perso qui peut sauter, qui peut donner des coups d'épée, mais qui peut aussi monter en expérience, qui peut aussi améliorer son équipement et qui est un spin-off de la série Xanadu. Donc Xanadu, qui est une série de RPG historique. C'était sur PC 88, je crois, les premiers Xanadu.
PC 88, MSX.
MSX, ouais.
Et Famicom.
Et donc Famicom. Donc c'est cet épisode qui est un épisode un peu spin-off et qui était exclusif donc à la Famicom. D'où le nom Faxanadu, hein, Famicom Xanadu. C'est très agréable, mais alors qu'est-ce qu'il est dur? Il est vraiment déjà t'as des sauts de la plateforme qui se font mais au quart de excuse-moi mais je l'achète qui gueule encore t'as des sauts qui se font au quart de poil près, c'est vraiment super compliqué. T'as des retours en arrière, t'as des moments où tu vas progresser pendant 2 heures avant de te retrouver face à une porte pour laquelle t'as pas la clé, du coup il faut revenir en arrière récupérer la clé. Enfin, c'est compliqué, ça, c'est un jeu qui est assez agréable à faire avec une FAQ, en fait. Et puis, pour le côté historique aussi, c'est assez cool. Du coup, ça me donne un peu envie de me pencher sur les autres épisodes de la série. Alors, peut-être pas les tout premiers hein, de Neon Falcom sur PC 88 et MSX, mais je sais qu'il y a eu des remakes qui sont sortis. Il y a un épisode PC Engine, je crois, qui est un remake du premier, qui a priori est plutôt pas mal. Donc, voilà. Mais le Faxanadu sur NES est assez sympathique. Donc, si vous cherchez un petit jeu d'arcade aventure, vous avez déjà fait Zelda 2 et déjà fini Battle of Olympus, et ben pourquoi pas celui-là, après tout, si vous cherchez un peu de challenge. Je pense que c'est un jeu qui a globalement assez bien vieilli dans son approche.
That was wonderful.
Bravo.
I loved that.
Oh, it was great.
Well, it was pretty good.
Well, it wasn't bad.
Well, there were parts of it that weren't very good,
though. It could have been a lot better.
I didn't really like it.
It was pretty terrible.
It was bad.
It was awful.
I was terrible.
Get him away!
Hey, boo!
Boo!
Benji, je n'oserais te dire que After Eight est un titre trompeur parce que après... On balance nos recos, mais est-ce que tu as une reco après tout ça?
J'en ai deux.
T'en as deux?
J'ai une reco. Ouais, j'ai une reco jeu vidéo et une reco podcast.
Bah, shoot!
Alors, je vais commencer par la reco jeu vidéo. C'est un petit jeu indé que j'ai vu passer sur le web et je me suis dit, attends, mais ça a l'air super. Et comme ça coûtait pas très cher, je l'ai pris. Ça s'appelle Deathwish Enforcers. Et alors, le nom n'est pas mensonger. C'est un immense hommage au film d'action des années 80. Et au jeu d'action de Konami des années 90 en même temps. C'est-à-dire que, bon, tu vois Sunset Riders? Eh ben, tu imagines Sunset Riders, mais avec Charles Bronson dans Death Wish, avec l'inspecteur Harry, avec Cleopatra Jones et avec Diana Rigg, et en plus avec Roger Moore en James Bond, en protagoniste. Et derrière, c'est un jeu pur jus, Sunset Riders, Mystic Warriors. C'est exactement la même formule. Enfin, à la limite, ça pourrait être... C'est pas un asset swap parce qu'il y a quand même des petites idées de gameplay en plus, mais c'est vraiment la formule reprise 1-1. Enfin, tu vois, si Konami comptait sortir un Sunset Riders, il leur ferait un procès tellement c'est... On n'est même plus dans l'hommage, là. C'est limite du plagiat. Mais c'est extrêmement bien fait. C'est tout en pixel art, façon 16-bit, arcade 16-bit de l'époque. Et c'est super chouette. Alors, c'est un peu dur. C'est un peu plus dur même que les jeux de l'époque. Mais ça se joue très, très bien. C'est disponible au moins sur Steam. Et je sais pas si c'est dispo sur console. C'est possible. Mais sur Steam, il y a la version Deathwish Enforcers Premium ou Deluxe. Je sais plus comment elle s'appelle. Special Edition, c'est celle avec James Bond. Oui, il est sorti sur Switch aussi et sur PlayStation. En gros, il est dispo partout, en fait. Et donc, ouais, si vous êtes en manque de jeux à la Sunset Riders, c'est vachement bien. C'est super agréable à jouer. La bande-son est cool, les graphismes sont cool, la maniabilité est cool. Franchement, si vous aimez les jeux d'arcade des années 90 et que ça vous manque, allez-y. C'est franchement, sans hésitation, c'est de l'argent bien investi.
Alors, écoute, moi, en ce moment, je suis dans une période de méca. C'est-à-dire, j'essaye de faire des maquettes. Je fais des maquettes de robots que j'aurais pas fait logiquement avant. Je fais des maquettes de robots, évidemment.
Des Gunpla ?
Et des Gunpla. Et je sais pas pourquoi, je regarde en ce moment au moins un ou deux épisodes de série de méca par jour. Je me dis, allez, c'est ma pause déj. Je me regarde des séries et je me les regarde toutes à la suite, quoi, comme toi, de manière systématique.
Des plutôt récentes ou des anciennes ?
Ben justement, plutôt anciens.
D'accord.
Et alors, sur Crunchyroll, et on en a parlé avec Greg, mais dans Sumiyasen Turbo, mais en fait, Crunchyroll par miracle, ils ont eu Mospeda.
Ah.
Et est-ce que tu connais Genesis Climber Mospeda, qui est la troisième série de Robotech ?
Alors voilà, je connais Mospeda uniquement parce que je sais que c'était une des trois séries qui était dans Robotech, avec voilà. Southern Cross et Macross.
Exactement. C'est la troisième, et donc elle est dispo par miracle, je sais pas pourquoi, et sous-titrée en français.
D'accord.
Sur Crunchyroll. Donc du coup, je me dis, écoute, puisque je suis là, je vais regarder toutes les séries de mecha qu'ils ont. Donc je regarde quasiment tout. Je me fais ma petite sélection. Et ils ont Double Zeta Gundam. Enfin, Gundam Double Zeta, plutôt, pour le dire dans l'ordre.
Mm-hmm.
Et Double Zeta Gundam, c'est compliqué parce que autant je suis admiratif devant Zeta Gundam, que j'ai revu l'année dernière intégralement. Et ça m'a fait un choc de le revoir adulte parce que quand je l'ai vu à 17, 18 ans, 20 ans, il y a des choses que je pas du point de vue linguistique, mais du point de vue d'études de personnages que je comprenais pas.
Ouais.
Et en fait, par exemple, il y avait un méchant ultra toxique dans Zeta Gundam qui est le méchant final. Et en fait, son truc, en fait, c'est de convaincre les pilotes de le rejoindre et de créer une mauvaise ambiance. C'est vraiment la toxicité à l'état pur. Et en fait, j'avais lu une interview des créateurs de Zeta Gundam, de plusieurs gens qui ont participé. Ils disaient, ouais, un mec comme Papyrus Shiroko, il ne peut pas exister parce que, quand on est gamin, on se rend pas compte que ce genre de gens existent. Mais en fait, quand on connaît le monde du travail, quand on grandit et quand on rencontre des gens et qu'on se confronte à quelque chose d'autre que ses copains de classe ou ses collègues de fac, eh ben, du coup, oui, on se rend compte que ce genre de personnes existent. Et du coup, c'est comme si ça m'avait fait tilt dans mon esprit. J'ai dit, ah oui, ok, je connais des mecs comme Papyrus Shiroko. Et donc, du coup, Zeta Gundam m'a reparu brillant, mais pour de meilleures raisons.
Pour d'autres raisons. Ouais. D'accord.
Et alors, Gundam Double Zeta, ils se sont dit, écoutez, vous avez aimé la tragédie Gundam, là on va partir dans la comédie. Et c'est burlesco, c'est horrible, c'est catastrophique, c'est vraiment pas bien en fait.
D'accord.
Mais il y a un truc, c'est que au bout d'un moment, et ça c'est des gens qui me l'ont affirmé, ils m'ont dit au bout d'un moment, ça devient bien.
Ouais.
Et donc je m'enchaîne.
Le classique, ça devient bien au bout de 30 épisodes.
Là, j'espère que ça va devenir bien au bout de la moitié, quoi. Et là, je suis au cap difficile où ils sont sur une île avec sur une colonie avec des indigènes et avec une espèce de secte nulle et tout. Et le héros, il est pas cool. Ils sont vraiment, personne n'est sympa dans cette série. C'est que des gamins. Vraiment, t'as pas envie de voir ça en fait. Mais c'est pas la seule série. Ils ont G-Gundam, donc G-Gundam qui est quand même plus rigolo. Mais il y a par exemple, j'ai repris un peu les dessins animés, surtout en regardant JoJo Bizarre Adventure l'année dernière. Ou même pendant le confinement en fait. Et il y a cette série qui s'appelle Brave Bank Bevern, et qui est une espèce de série méca, mais très méta, dans le sens où le robot tombe amoureux de son pilote, et ils se disent des trucs,
mais homoérotique, tout, genre vraiment, genre il y en a un qui dit rentre en moi, enfin tu vois, c'est des trucs un peu zarbi, c'est un humour très 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 bizarre puisque le héros il est tout nu à l'intérieur et tu vois ça crée des espèces d'innuendo vraiment vraiment chelou.
Ouais.
Et je suis en train de me regarder ça et ils ont aussi Orgus qui aurait pu être la deuxième série Robotech mais en fait qui ne l'a pas été, mais parce que c'est le même staff que Macross. Et c'est même Mikimoto au chara-design. Donc, du coup, je me refais un épisode ou deux épisodes par jour de série de mecha. Et je peux alterner, j'alterne comme ça. Je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai un peu de courage. Je me fais Gundam Double ça en attendant que ça devienne bien. Mais voilà, ouais, c'est mon petit truc du moment. Et quand ça sera fini, je me referai sans doute Dunbine. Je pense que mon prochain client ça va être Dunbine. Voilà.
D'accord. Bah écoute, je t'avoue, je suis encore en train.
Qui t'a chopé les DVD au Japon ou aux États-Unis?
Moi, je suis encore en train de regarder l'Attaque des Titans, mais j'avance vraiment pas vite. Donc.
Hey, ça vaut le coup. Hein.
Mais j'ai commencé. Voilà.
J'ai voulu mettre Amandine dessus. Elle m'a fait. T'es sûr? Pour la mettre sur un truc, c'est compliqué.
Et puis le début est un peu rude aussi. Hein. Faut s'accrocher un peu au début, je trouve.
Tu trouves? Moi, je trouve que dès les trois premiers épisodes, t'es dedans. Hein.
Ben oui, faut dépasser les trois premiers, je dirais.
Mais par contre, après, s'il y a un vrai temps mort de seconde saison, mais bon.
Mais voilà, bah écoute, je te dirai ça quand j'aurai terminé. Ma deuxième recommandation, c'est un podcast et c'est une reco que je veux faire depuis super longtemps, mais à chaque fois, j'avais d'autres trucs qui étaient plus dans l'actu à recommander. C'est un podcast qui se trouve sur les audioblogs d'Arte qui s'appelle Numérico. Est-ce que ça te parle, Numérico?
Absolument pas.
Alors, Numérico, c'est un podcast qui est l'œuvre de gens, je ne sais absolument pas qui le fait, mais on peut reconnaître quelques voix et notamment les mecs de Dava font partie de l'équipe. Et Numérico, c'est une parodie de podcasts sur le numérique, mais genre les podcasts de la Startup Nation, tu vois. T'imagines bien des gens macronistes te faire des podcasts tech, marketing, culture numérique, bien-être, bienveillance. Et c'est extraordinaire parce que les gars font ça de manière extrêmement sérieuse de bout en bout. Ils tiennent le truc du début à la fin et parfois c'est long. Mais il y a tout, il y a les tics de langage, il y a l'espèce de bullshit, il y a la fausse bienveillance où tu sens bien que les mecs se posent en apôtre du respect, de la tolérance, mais derrière c'est des immenses connards. C'est absolument remarquable et le fait que ça soit vraiment assez peu mis en avant et rend le truc d'autant plus mystérieux et intéressant. Alors, il y a un épisode en particulier qui je pense te parlera qui s'appelle « Enquêtico » sur la prise d'otage de Neuilly avec une interview d'un faux Sarkozy, avec un type qui fait une imitation de Sarkozy éclaté au sol, mais pendant une heure, le type tient le truc et c'est fait de la manière la plus sérieuse possible avec un faux Sarkozy pendant une heure et avec des moments où t'es obligé de rire tellement ça devient grotesque. Il y a un épisode sur un type qui est parti sur l'île des Sentinelles en Indonésie pour ouvrir la première franchise Michelin sur l'île des Sentinelles. Et tout est fait dans le plus grand des sérieux. Il y a même des pubs en milieu d'épisode où par moment c'est tellement bien fait que je me demande si c'est pas juste une vraie pub qu'ils ont reprise pour la mettre au milieu de leur truc. C'est extrêmement troublant, mais aussi vraiment drôle dans le côté complètement abstrait et sérieux en fait. Je sais pas trop comment le décrire autrement que je pense que ça laissera plein de gens sur le bord de la route. Mais si tu rentres dans le délire, c'est vraiment extrêmement drôle. Sur les premiers épisodes, ils ont un chroniqueur série qui s'appelle Alan Fourmi, qui a tout un arc qui malheureusement disparaît un peu, mais c'est vraiment le prototype du type qui est là genre « Oh, je vais vous faire découvrir une nouvelle série !» Et il te sort le truc que tout le monde connaît, quoi. Enfin, c'est vraiment super drôle. Donc voilà, Numérico, c'est disponible a priori partout où vous cherchez vos podcasts. Si j'avais une critique... Ils ont un site qui est plus ou moins officiel, qui est numérico.bzh, sur lequel toutes les illustrations sont faites à l'IA et elles sont dégueulasses. Et je trouve ça extrêmement dommage qu'ils aient recours à ces merdes. Donc voilà, ne serait-ce que les illustrations immondes qui sont sur leur site, c'est un petit peu le truc dommage. Mais si vous ignorez tout ça et que vous écoutez juste le podcast, il y a franchement des trucs très, très drôles.
Bah écoute, moi aussi, je fais une reco marque 2. L'Esprit Coubertin, c'est une comédie qui est sortie semaine dernière.
Et j'en entends parler.
Et allez le voir, c'est vraiment très très drôle parce que d'abord c'est plein de mauvais esprits sur les Jeux Olympiques et comme
comme beaucoup de gens, on a
envie. Ah oui, là, j'ai très envie de voir ça.
On a envie de... J'aimerais bien que ça se passe exactement comme dans le film. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, la France accueille les Jeux Olympiques, il n'y a pas un seul mec qui gagne une médaille. Et c'est... et que le responsable, l'intermédiaire entre le ministre des Sports et le ministre des Sports et le sportif, ça soit le mec du Palma Show. Les commentateurs sportifs, c'est les mecs de Dava, c'est ça qui m'y a fait penser.
D'accord.
Et c'est vraiment très 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 drôle. C'est un peu mauvais esprit, mais en même temps très gentil quoi. Ça aurait pu. C'est réalisé aussi comme Bis Repetita que j'avais recommandé une autre fois par quelqu'un qui était réalisateur de la série Parlement que je suis en train de regarder en ce moment.
D'accord.
C'est très très drôle Parlement, putain, c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, c'est trois recos en une. Voilà.
Très bien.
Benji, je crois qu'on s'en est sorti pour un épisode qu'on a décidé de faire une heure avant.
Ouais, une heure avant. Ouais, ouais, bah écoute, on avait des trucs à dire, c'est bien.
Ouais, on avait des trucs à dire. Et puis, bah, heureusement, tu vas mieux.
J'ai fait un peu long sur ma blessure du pied, mais...
Oui, oui, il y avait du storytelling. Mais j'ai bien compris, c'est un peu le nouveau genre d'After Eight, c'est du storytelling.
Le storytelling. Sachez que si vous avez la goutte, ne vous faites pas amputer le pied comme il le faisait à l'Antiquité, parce que ensuite la goutte peut s'installer ailleurs. Du coup, ça change rien.
Très bon conseil. Merci Benji. Voilà. Et encore une fois, on sent que la médecine aux États-Unis a vraiment fait des efforts pour te,
oui,
pour te garder ton pied.
Ils m'ont pas recommandé l'amputation, donc c'était déjà une victoire.
After Eight est disponible sur le site officiel aftereight.fr et sur tous les applis disponibles de podcast. Mais bon, ça, c'est une phrase rituelle.
Voilà.
On remercie tout le monde qui nous soutient sur patreon.com/RPU. Merci de nous aider et de permettre que nous produisions ce podcast. Et maintenant, Benji, je pense que je vais te souhaiter un bon dimanche.
Eh ben, je te remercie. C'est la fête des mères ici.
C'est vrai que c'est la fête des mères, alors que moi, elle tombe... Cette année, elle tombe pour mon anniversaire, la fête des mères, donc j'ai invité.
Ah bah.
J'ai invité des amis, ils font bah non, mais je vais voir la fête des mères et tout. Mais moi.
Oh.
Ouais.
Ah bah écoute, si tu veux, tu peux venir au Canada, c'est là que je serai. Parce que je fais la fête des mères avec ma mère au Canada. Oh, on se retrouve à mi-chemin.
C'est vraiment, je trouve ça absolument adorable. Tu embrasseras ta mère et aussi ton père. Tu lui dis de faire gaffe quand même.
Je lui dirai de faire gaffe au tennis, si jamais il lui prend l'envie d'en refaire.
Voilà. On vous embrasse très fort et on vous souhaite une très très très... Non, attends, merde, j'ai foiré à la fin.
Une très très bonne fête des mères, on vous souhaite ça.
Et voilà, ah bah écoute, voilà. On vous souhaite
bon, ce sera
bonne...
trop tard quand vous recevrez l'épisode, mais... bah non, ce sera... Non, c'est bon,
non,
la fête des mères en France, c'est dans 3 semaines.
C'est
oh bah oui, bon, ça
maintenant
va,
tout le monde sait
va.
Que quand je suis né, voilà.
Super. Voilà.
On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Bisous.
Je pense qu'il y aura du matos, Baptiste.
Ah, bah du coup, j'ai oublié de dire que je voulais revenir sur la LAPD. La LAPD.
Est-ce que tu veux... est-ce qu'on a
oh,
pas...
Je peux... Non,
garde,
mais je
garde-le
peux
pour le prochain coup. Garde-le
non,
pour
je peux revenir dessus vite fait. J'ai pas épilogué, de toute façon.
D'accord.
Quand je disais dans un précédent épisode que oui, il y avait des flics à la LAPD qui émargeaient à 300 000 dollars l'année, c'est évidemment pas le salaire de base ni celui qui est écrit sur la fiche de poste. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si c'est ce que j'ai laissé entendre, je m'en excuse. Mais en revanche, via le truchement des heures supplémentaires et des primes, il est extrêmement facile pour un officier de la LAPD et vraiment un officier de base qui s'occupe de la circulation de doubler, voire tripler son salaire. Et surprise, ils le font quasiment tous. C'est une des raisons pour lesquelles le budget de la LAPD est aussi élevé. Parce que oui, ça inclut évidemment le fait qu'ils ont de l'équipement paramilitaire, ce qui est absolument scandaleux. Mais ça inclut aussi leur paye, puisque les heures supplémentaires qui sont déjà défiscalisées en plus sont incluses dans le tarif. Et oui, en faisant énormément d'heures, ce qui est assez facile à faire, puisque qui vérifie que tu fais vraiment tes heures quand t'es keuf et que t'es supposé faire la circulation? À moins de les micromanager tous, je sais pas trop comment c'est possible de faire ça. Donc, il y a des combines, ils s'en servent, et c'est comme ça qu'ils émargent à des salaires absolument mirobolants. C'est documenté, je sors pas ça quand même de n'importe où. Y a énormément d'assauts qui documentent le fait que la police se sert royalement en heures sup. Donc voilà, écoutez, après, si vous voulez pas me croire... C'est pas grave.
Moi, je veux te croire, mais je te rappelle un truc, c'est que la pire comédie de tous les temps sort... Sort la semaine prochaine.
Tu voulais pas en parler?
Ouais, mais j'en parle.
Parce que tu sais qu'il y a, on a plein d'auditeurs qui se demandent de laquelle tu parles. Il y en a plusieurs qui ont deviné quand même.
Bah oui, en fait, oui. Là, maintenant, j'ai dit elle sort la semaine prochaine alors que. Ah non, attends. Elle est sortie le 8 mai.
Je crois que c'est déjà sorti. Hein.
Elle est sortie le 8 mai. Putain, et attends, il faut qu'on fasse un. Faut que je.
Bah vas-y, Bah écoute, on est en post-générique. Fais-toi
ouais,
plaisir.
Mais ça se trouve, ils veulent inclure dans l'épisode, écoute.
Non, parle-en en post-générique. Ce sera le bonbon pour les gens qui écoutent jusqu'au bout.
D'accord, bah écoute, c'est Neuilly-Poissy avec Max Boublil. Et alors, attention, accroche-toi. C'est globalement une comédie sur Max Boublil qui va en prison pour escroquerie.
Crédible jusqu'ici. Hein.
Ouais, et qui a peur, pendant les 45 premières minutes du film, il a peur de se faire sodomiser en prison. C'est ça le ressort comique de la comédie de ce film pendant les 45 premières minutes.
D'accord.
Mais
et ensuite, il se fait sodomiser. Et qu'est-ce qui se passe pendant les 45 minutes qui suivent?
Mais ce n'est pas tout. Alors, moi, je vais te dire un truc, mais c'est des points de vue juste histoire de goût personnel.
Ouais.
Tout ce qui a trait avec le viol en prison, ça ne me fait jamais rire.
Oui, c'est rarement drôle.
Non, mais je trouve ça nul. Quand c'est
le niveau zéro de l'écriture, en plus. C'est vraiment...
C'est vraiment... Et tu sais quoi? Je te prends juste un exemple. La dernière blague de Nicky Larson, de Philippe Lachaud, c'est Didier Bourdon qui menace de se faire pécho en prison. Tu vois, c'est ça. C'est ce genre de blague, je n'aime pas ça.
Mm-hmm.
Mais c'est moi. Peut-être que c'est moi. Alors, je te raconte la suite. Et donc, du coup, il y a une particularité. Ce mec qui va en prison, il a une très belle femme, il vit dans le luxe et tout, machin, mais il grugeait un peu sur le fisc et tout. Et du coup, il se retrouve en prison parce qu'il a un peu joué au cador avec le juge qui était joué par Gérard Darmon.
D'accord.
Mais genre, tout petit rôle. Et donc, il va en tôle et globalement, je te l'ai dit, il y a une menace sur son physique. Et en plus, il est juif. Et il se retrouve dans le coin carcéral, pas du tout disposé à l'accueillir.
Ouais, avec les nazis, quoi.
Il se retrouve avec les arabes.
Ah.
Les arabes et les noirs. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est que pour ne pas se faire défoncer ni violer en prison, il va se faire passer pour arabe.
Donc le propos du film, c'est que les noirs et les arabes sont antisémites.
Alors oui, il y a ça, mais attends,
okay,
accroche-toi. Et donc, du coup, il va se faire passer pour arabe. Ensuite, il va se faire débusquer. Et qu'est-ce qu'il va se faire pour pas se faire violer en prison, ni se faire tabasser? Il va se convertir à l'islam. Donc il y a des salafistes et tout. C'est vraiment ça les ressorts comiques de ce film. Hein.
Ça a l'air abominable dit comme ça.
Attends, c'est pas fini. Il y a sa femme qui est jouée par Mélanie Bernier. Alors globalement, les femmes dans ce film sont plutôt maltraitées. Elles sont soit castratrices, soit des putes. Et globalement, Mélanie Bernier, elle arrive et elle passe pour une prostituée, alors qu'en fait, c'est juste sa femme. Et au bout d'un moment, elle en a ras-le-bol et il divorce. Et ça, c'est un truc clé. C'est qu'à un moment, il y a Max Boublil qui se convertit, mais il dit, mais il y a quand même mon rabbin qui peut faire Pessah. Et donc là, vous savez, à Pessah, il y a de la viande. Et là, évidemment, l'appel du ventre, tous ces mecs arabes qui voulaient le défoncer viennent manger Pessah avec lui, genre, et manger de la viande avec le rabbin qui est joué par Gérard Jugnot.
D'accord.
Non, mais je veux dire, ça coche toutes les cases.
Ouais, c'est formidable jusqu'ici, ouais.
Ça coche toutes les cases. Et alors là, ils sont en train de faire la bouffe. Et puis à un moment, il y a un mec qui dit, mais tu sais quoi? C'est péché de renier sa religion. Genre, Pourquoi il lui dit ça? Il dit, tu peux reprendre ta foi originelle. Et donc, il y a des belles images de tolérance où on les voit prier de leur Dieu de manière différente. C'est vraiment un film sur la tolérance, hein, vraiment, je t'assure.
Ouais.
Mais attends, accroche-toi parce que c'est pas fini. Et alors là, arrivent les 15 dernières minutes du film et il faut emballer le truc. Et là, il y a un des mecs. Et maintenant, ils sont devenus tous copains. Ils ont accepté avec sa différence et tout. Là, ils sont tous devenus copains.
D'accord.
Et il n'y a plus de menaces sur son intimité. Mais il lui dit, mais attends, mais tu vas pas aller comme ça voir le juge, il faut te préparer. Et donc, il lui sort Crime et châtiment de Dostoïevski. Et il lui dit, il faut que tu lises ça. Il n'y a jamais aucune ref pour comprendre pourquoi Crime et châtiment et tout ça, plus que ça. Il dit, tous les juges l'ont lu, il faut que tu le lises.
D'accord.
Et ensuite, il commence à l'entraîner physiquement en lui faisant faire des pompes et en courant dans le pénitencier. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, même les imams qui l'ont converti et tout, ils se mettent tous à courir à la fin. C'est vraiment genre le training montage, mais genre on est tous potes en prison, quoi.
Ouais.
À aucun moment tu y crois. Vraiment, c'est genre, mais c'est supposément une comédie. Mais tout le reste est très, très... J'espère que vous sentez que je trouve ça très cringe.
Et oui, ouais, y a aucun moment tu me donnes envie de le voir, là, clairement.
Et alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, il convainc le juge parce qu'il montre qu'il a compris et qu'il a admis ses erreurs et c'est ce qu'un juge veut entendre.
Ouais.
Ça montre aussi que les juges sont bêtes, mais bon. Et alors, il finit par sortir, mais il va voir sa femme dont il a divorcé, Mélanie Bernier.
Mmh.
Et là, Mélanie Bernier, elle dit non, sors de là. Alors, il n'accepte pas vraiment le non. Et donc, il s'approche, il dit non, mais reprends-moi et tout ça. Et là, elle lui touche le bras et elle sent qu'il a fait des pompes en prison. Et elle retombe,
oh putain,
elle retombe amoureuse avec. T'es pas sérieux? Elle recouche avec.
T'es pas sérieux?
Je te jure que c'est ça.
Oh putain, quel enfer!
Et alors là, je vais te dire, parce que moi j'ai vu la Director's Cut, puisque j'ai vu la Director's Cut présentée en festival, et il y a une scène qui n'est pas dans la version finale, c'est qu'à la fin, il est à la plage, et il y a des petits jeunes qui commencent à le faire chier, et ils se lèvent genre, hé hey, les gars, oh, stop, genre, je me fais respecter. Et ils comprennent tout de suite qu'il a été en prison, et il se fait respecter. C'est une scène qui n'est pas dans le film final. Si vous allez le voir, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie.
C'est abominable. Il racontait comme ça, c'est...
C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Et genre, je regardais mon voisin à ce moment-là, Jérôme, pour pas le nommer.
Oui, bah ton compagnon d'infortune, en général.
Et Hugo Alexandre,
oh,
le
Hugo,
camarade de Calmos.
Non, ouais.
On se regardait et je lui dis, mais est-ce que je suis en train de voir ce que je suis en train... Et c'était abominable. C'est vraiment dégueulasse. Et tu sais quoi? C'est même pas la faute des autres acteurs. Max Boublil, je trouve que il joue le mec cool, c'est ce qu'il essaye de faire tout le temps. Bon, bah, c'est son truc, mais genre les autres mecs en prison et tout, ils jouent plutôt bien en fait.
Ouais.
C'est vraiment ce qu'ils jouent, c'est vrai. Genre, vous êtes relus les mecs? C'est vraiment à ce niveau-là, quoi.
Ouais.
C'est, je pense que c'est un des films les plus sordides que j'ai vu de ma vie et genre pour moi c'est la ligne verte de la comédie, quoi.
Écoute, la ligne verte de la comédie, c'est un magnifique titre.
Ouais.
Du coup, je vais utiliser ça comme titre. Tout le monde va se demander, mais de quoi il parle? Et les gens qui s'arrêtent au générique de fin ne sauront jamais.
Ne sauront jamais. Ben écoute, voilà. Si le staff du film m'écoute, jusqu'au bout.
Voilà, si le staff du film t'écoute, désolé les gars, mais peut-être une prochaine fois, quoi. Voilà.
C'est bon, là on est bon.
Allez, bisous.
Bisous.
Une production RPU.